Vous écoutez RFI, le 9h30 à Paris, 8h30 temps universel. La dernière édition d'Afrique Matin est présentée par Pierre Boudias. Rebonjour Pierre.
Rebonjour Chantal, rebonjour à toutes et à tous. Le M23 s'empare de Bukavu. Des colonnes du groupe armé soutenu par le Rwanda sont entrées dans la capitale du Sud Kivu, dans l'Est de la RDC. Nous ferons le point dans ce journal. Vers une victoire écrasante du pouvoir au sénatorial togolaise, scrutin indirect boycotté par l'opposition. Il doit marquer un point final avant l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution. Le matraquage fiscal hérisse les citoyens au Mali. Une hausse des taxes annoncée au début du mois par les autorités en manque de fonds. Côté association de consommateurs, on appelle plutôt à réduire les dépenses de l'État. Et puis le Maroc craint pour l'avenir de son bétail. Le cheptel du pays a perdu plus d'un tiers de son volume en l'espace de 9 ans. Une situation qui fait craindre une explosion des prix à l'approche de l'Aïd. Des colonnes du M23 sont donc entrées dans Bukavu, la capitale du Sud Kivu, officiellement tombée aux mains du groupe armé soutenu par l'armée rwandaise hier. Occupation dénoncée par l'armée congolaise. Après Goma, c'est le second chef-lieu provincial à être capturé. L'ensemble du lac Kivu est désormais sous le contrôle du M23. On fait le point tout de suite avec Amélie Tullet.
Kinshasa continue de réclamer des sanctions ciblées contre le Rwanda. Les autorités congolaises dénoncent l'occupation nouvelle de Bukavu. Les hommes du M23 et les soldats rwandais sont entrés ce week-end dans la capitale provinciale du Sud Kivu. Une colonne de soldats y a été aperçue hier matin, se dirigeant vers le centre-ville. La nuit précédente avait été marquée par des tirs, des coups de feu sporadiques entendus par de nombreux habitants, tout comme la journée du samedi, une journée durant laquelle il y a eu de nombreux pillages, dont des stocks d'aide alimentaire appartenant à des organisations humanitaires. Sur le plan humain, le bilan est encore incertain, selon le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge, qui soutient l'hôpital provincial général. Des blessés de guerre par balles et par explosifs ont été admis samedi et dimanche. La CAMI hier a permis une mission de reconnaissance en ville où des corps sans vie ont été repérés. Les équipes de la Croix-Rouge espèrent pouvoir les récupérer dès aujourd'hui par mesure sanitaire et pour tenter de les identifier et leur offrir une sépulture décente.
Amélie Tullet, dans ce contexte, la réaction de l'Union africaine était bien sûr très attendue. Réunion jusqu'à hier à Addis Abeba. L'organisation continentale a appelé le M23 à quitter toutes les villes occupées en RDC. Les États membres appellent également à un dialogue inclusif entre toutes les parties, mais aucune condamnation du Rwanda, comme demandé par Kinshasa. Réaction transmise par la voix du président du Conseil Paix et Sécurité de l'UA, Bankole Adeoye, qui dit craindre une balkanisation de la République démocratique du Congo. Au Togo, le parti présidentiel en passe de s'adjuger les sénatoriales. Les résultats provisoires donnent l'UNIR vainqueur avec 34 des 41 sièges remportés suite à l'élection qui s'est déroulée samedi. Le président Fornia Simbe doit nommer les 20 sénateurs restants. Il s'agit de la dernière étape avant l'application de la nouvelle constitution. Cette réforme, critiquée par l'opposition, instaure un régime parlementaire où Fornia Simbe, au pouvoir depuis 2005, pourrait devenir président du Conseil. Le scrutin avait été boycotté par plusieurs partis d'opposition dénonçant un maintien au pouvoir déguisé. Correspondance depuis Lomé, Peter Sassou Dogbe.
Les résultats provisoires ont été annoncés par Yabré Dago, président de la Commission électorale nationale indépendante.
Sur les 41 sièges enlevés, UNIR remporte 34 sénateurs. ADI a un sénateur. L'UFC a un siège. Bâtir a deux sièges. Clé à un siège. Le Togo autrement à un siège. Les deux bisons à un siège.
Dissident de l'Alliance nationale pour le changement, exclu du parti peu avant l'élection sénatoriale pour avoir contesté la décision du parti de ne pas prendre part au scrutin, Robert Olimpio, candidat indépendant sur la liste Les deux bisons prend un siège.
Je suis très heureux. Honnêtement, je veux appartenir au peuple comme tous les autres. Il faut que tout le monde participe à la chose publique. Pour ceux qui ne veulent pas, c'est tant pis. Mais moi, j'avance.
Il revient au président de la République de nommer le tiers restant, c'est-à-dire 20 sénateurs, pour que l'institution soit au complet. Le Sénat devra siéger après la publication définitive par la Cour constitutionnelle. Peter Sassou Dogbelo, MRFI.
Un mot de la situation sécuritaire au Bénin et la zone du point triple dans le nord du pays touchée par une attaque djihadiste meurtrière. De sources sécuritaires béninoises, 6 soldats ont été tués dans un assaut sur une position stratégique de l'armée située dans le parc W aux alentours de Karimama, à 750 km au nord de Cotonou. Une quinzaine d'assaillants ont été abattus selon ces mêmes sources. Le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a revendiqué l'assaut et avance un bilan de 8 soldats décédés. C'est dans ce même secteur que 30 soldats avaient été tués début janvier, dans ce qui est l'une des attaques les plus sanglantes depuis le début de l'opération antiterroriste Mirador. Au Mali, l'annonce de nouvelles taxes, notamment sur les services téléphoniques, continue de faire réagir. Le 5 février dernier, un projet d'ordonnance instaurant de nouvelles taxes a été dévoilé en Conseil des ministres. Certaines concernent les entreprises, d'autres vont directement pénaliser les citoyens. L'Association des consommateurs du Mali a été consultée par les autorités de transition et si elle ne nie pas la nécessité pour l'État de trouver des fonds, elle demande des contreparties, David Bachet.
10% de taxes sur les recharges téléphoniques. Concrètement, sur une carte de 1000 francs CFA, cela fait 100 francs de crédit en moins. 1% sur les transferts d'argent par mobile monnaie. L'effort n'est pas anodin sur des services utilisés au quotidien par tous les Maliens. Abdoul Wahab Diakité, président de l'Association des consommateurs du Mali, ne trouve pas anormal que la population soit mise à contribution, à condition que les autorités le soient aussi.
Nous allons en contrepartie demander aux autorités de leur terrain de vue. Nous pensons à la réduction des budgets de toutes les institutions, à un prélèvement sur les salaires des ministres, des fonctionnaires.
Des membres du CNT, le Conseil national de transition également ?
Tout le monde sans exception.
Depuis plus d'un an, les coupures d'électricité que subissent les Maliens ont atteint un niveau sans précédent. Le gouvernement de transition assure que ces nouvelles taxes serviront à des projets d'infrastructures, notamment dans l'énergie. Le président de l'Association des consommateurs du Mali demande de la transparence dans la gestion des fonds.
Faire l'état de la mobilisation de ces fonds-là trimestriellement et leur utilisation également, que tout le monde puisse savoir le résultat de leur contribution, l'impact de leur contribution.
Lors d'un point presse, le premier ministre de transition, le général Abdoulaye Maïga, l'a assuré. Il n'y a aucune volonté d'abuser de la résilience des Maliens.
David Bachet, direction le Maroc maintenant, et les chiffres sont alarmants. En l'espace de 9 ans, le royaume a perdu plus d'un tiers de son cheptel national, selon le ministre de l'Agriculture Ahmed El Bouhari. Il répondait aux questions des journalistes cette semaine lors du point presse hebdomadaire du gouvernement. Les troupeaux ont fondu à cause du stress hydrique alors que le royaume vient d'entrer dans sa 7e année de sécheresse. Les zones de pâturage ont rétréci et les remplacées par des aliments pour bétail coûtent cher, mettant la pression sur les éleveurs. Résultat, les prix de la viande explosent et le sacrifice de l'Aïd est aujourd'hui menacé, Mathias Reynal.
Le cheptel marocain a baissé de 38% entre 2016 et aujourd'hui, selon le recensement réalisé par le ministère de l'Agriculture. Larbi Zagdouni est agroéconomiste.
La situation était déjà fragilisée au fil des années et il a suffi qu'il y ait une sécheresse dure et durable, combinée donc à la flambée des prix des aliments de bétail sur le marché mondial pour que le système s'effondre.
Pour relancer l'élevage, le ministre de l'Agriculture, Ahmed El Bouhari, a annoncé un programme global de soutien au secteur de la production animale. Pour Arbi Zagdouni, ce ne sera pas suffisant. Il faut, dit-il, remettre en question le modèle agricole marocain.
On a fragilisé encore davantage notre système d'élevage par la réduction de sa base essentielle qui était les parcours collectifs et la céréliculture. Ce type de politique s'est amplifié encore davantage avec l'avènement en 2008 du plan Maroc vert, lequel ce programme soi-disant d'économie d'eau a fini par se traduire par une extension démesurée des superficies irriguées, au moment même où les apports en eau des précipitations ont cessé de diminuer.
Décision rarissime prise deux fois seulement dans l'histoire du Maroc, l'annulation du sacrifice de l'Aïd est désormais évoquée dans les médias locaux. En conférence de presse, le ministre de l'Agriculture a refusé de trancher sur ce point. Mathias Reynal, Casablanca. RFI.
Dans le reste de l'actualité, l'ex-premier ministre mauricien n'aura finalement passé qu'une nuit en prison. Pravin Jugnauth, libéré sous caution hier, il avait été interpellé dimanche matin et interrogé plusieurs heures pour des soupçons de blanchiment d'argent. Des perquisitions chez deux autres suspects dans cette affaire auraient permis la découverte d'argent en liquide et de documents incriminant l'ancien dirigeant de Lille. En Ouganda, la femme de Kizza Besigye fait part de sa très grande inquiétude face à la santé de son époux. L'opposant ougandais est actuellement en grève de la faim et se depuis depuis une semaine, il entend protester contre sa détention qu'il juge illégale. Hier, le gouvernement a assuré lui avoir demandé de s'alimenter à nouveau, mais confirme son intention de transférer le procès de l'homme de 68 ans devant une cour civile. Kizza Besiege, toujours poursuivi pour trahison, risque la peine capitale. Et puis c'est un plafond de verre explosé en 18 secondes. De 18 secondes, l'Ougandais Jacob Kiplimo a fait tomber hier à Barcelone en Espagne le record du monde du semi-marathon, devenant le premier homme à passer sous les 57 minutes. Voilà, vous écoutez toujours RFI, c'est la fin de ce journal. Il est 8h40 à Dakar, 9h40 à Paris et à Cotonou. La suite de l'appel sur l'actualité, c'est avec vous, Chantal Leroux.
Merci, c'était le journal de Pierre Boudias. À demain, Pierre.